France Inter. Le sport qui aide à gagner, pas des trophées, pas des médailles, non, mais des années de vie. Le sport qui sauve, qui répare et qui guérit. Le sport sur ordonnance, le sport pour le corps, pour la tête, le sport au secours des patients, mais aussi des médecins. C'est l'esprit de cette émission du jour avec deux engagés pour la cause. D'abord, la marathonienne Anaïs Kemener, qui avale les bornes et les tumeurs, auteure d'un livre réjouissant. Tout ce que je voulais, c'était courir. Et avec elle, le docteur Bouillet, karatéka et oncologue, pionnier dans la prescription du sport, qui soigne. Tous les deux sont nos invités, avec qui on va parler aussi de para-équitation. On prendra des nouvelles de la prépa olympique, de notre judoka reporter Valentin Winato. Et bien sûr, il en fait du sport. Mais il en parle comme personne. Claude Ascolovitch sera là. Nous sommes le dimanche 7 avril. Si vous êtes en train d'en baver sur l'un des 42,195 km du marathon de Paris dans les rues, là, en ce moment, vous avez bien fait de mettre l'esprit sport dans les oreilles. On est avec vous et on inspire.
L'esprit sport. Nathalie Yanetta sur France Inter.
20 novembre 2022, championnat de France de marathon, Deauville.
Championne de France 2022, la nôtre, Anaïs Kemener, la mountaineuse.
Bonjour Anaïs Kemener.
Bonjour.
C'était l'un de vos nombreux titres de championne, championne de France, l'un de vos nombreux marathons aussi remportés. Vous êtes une coureuse de fond, vous avez 33 ans et vous venez d'écrire un livre formidable qui s'appelle « Tout ce que je voulais, c'était courir », un livre où vous racontez votre combat contre le cancer. On en parlera tout à l'heure avec le docteur Bouillet, mais un livre où vous parlez surtout de course. Alors nous, on est une émission de sport et il faut que ça sente un peu la sueur, la transpiration, etc. D'abord, le sport dans votre vie, Anaïs, c'est depuis le départ, depuis toute petite.
En fait, j'ai commencé la course à pied de façon très ludique à l'âge de 7 ans, même un peu avant, je pense, avec ma famille, mon père, mes grands-parents, quand on allait à la campagne.
Ouais.
C'était vraiment très, très ludique. Et je pense que ça m'a un peu suivie. J'ai commencé à me mettre dans la compétition à l'âge de 9 ans. Et ensuite, ça ne m'a plus jamais quittée jusqu'à aujourd'hui.
Vous n'avez pas fait d'autres sports? Vous avez préféré courir ou vous avez quand même essayé d'autres choses?
J'ai fait un petit peu de football, un peu de baseball, mais ça n'a jamais été... Enfin, je n'ai jamais été très forte dans d'autres sports et j'avoue que je prenais beaucoup moins de plaisir que dans la course à pied.
Mais comment on prend du plaisir dans la course à pied?
Je pense que je vois ça comme un jeu, en fait. J'ai pas vraiment cette notion de compétition contre les autres. C'est vraiment une compétition avec moi-même où je me dis, ben, chaque fois, je vais essayer de faire un peu mieux, d'être en meilleure forme, de m'entraîner de la meilleure des façons. Et puis, je suis toujours avec mes proches. Donc, c'est mon père qui m'entraîne, qui est mon entraîneur. Et je pense que, du coup, ça donne une autre dimension au sport qui fait que c'est complètement du partage et de beaucoup d'amour.
Alors on l'a dit, aujourd'hui c'est le marathon de Paris, un marathon que vous ne courez pas mais vous encouragez vos amis. Pourquoi cette étape-là, pas cette année ?
Pas cette année parce que j'ai d'autres objectifs en cours de saison. Je vais faire les championnats de France de 10 000 mètres début mai. Et du coup, le marathon de Paris, c'était pas la date à cocher.
Alors racontez-nous d'ailleurs, comment est-ce que quand on est marathonien, on est obligé de gérer ses courses, gérer son calendrier, certaines pour lesquelles on fait une impasse, d'autres auxquelles, au contraire, on se prépare ?
En fait, c'est du coup un calendrier qui est vu année par année. Donc là, je sais déjà quasiment toute la saison ce qui va se passer comme compétition. C'est des dates importantes que j'ai pu cocher, donc comme des championnats de France, comme les... Enfin, il y a des différentes dates. Ça peut être en mai, en juin...
Et pourquoi vous choisissez ? Sur quels critères ?
Des compétitions que je veux préparer. Donc, par exemple, je vais pas privilégier du 3000 mètres parce que c'est pas ma discipline. Je vais plutôt préférer des longues distances. Donc, je vais prioriser, entre guillemets, les courses de fond ou de demi-fond.
C'est quoi votre distance fétiche ?
C'est le marathon.
42,195 km. Ça. Ce marathon qui va passer aussi, et ce marathon aujourd'hui de Paris est différent parce qu'il va suivre aussi un peu un tracé olympique. Il y aura le marathon, évidemment, pour les Jeux, mais il y a aussi le marathon pour tous, même celui-là. Vous avez pas eu envie d'aller chercher un dossard ?
Si, je pense que j'aurai un dossard pour le marathon pour tous.
Ah, quand même.
Oui, oui, oui. Parce que justement, c'est la fête, c'est le moment de partager une course avec plein d'autres coureurs.
C'est la première fois, on le rappelle à nos auditeurs, que dans l'histoire des Jeux Olympiques, sur le même parcours, il y aura des pros qui feront le marathon olympique et puis qu'on a ouvert cette course à des coureurs amateurs ou professionnels, un peu comme vous, pour qu'ils partagent d'une certaine manière Un esprit olympique.
C'est ça. Je trouve que c'est super et c'est valorisant aussi pour tous les coureurs, du coup, professionnels ou amateurs, de pouvoir fouler le même parcours que les meilleurs athlètes mondiaux. Et je trouve que c'est vraiment génial. Je trouve que c'est très, très valorisant.
Vous n'avez pas raté la qualif à beaucoup pour les Jeux. Vraiment les Jeux.
Quand même.
Si, beaucoup. Vous êtes à 2 minutes, mais comme les Françaises, il faut c'est le ça. Dire en fait, on a des marathoniennes qui cartonnent, du coup, il y a un certain nombre de places limitées. Même si vous avez fait les minima ou pas loin des minima, de toute façon, ça ne suffisait pas. C'est une déception pour vous ou après tout, ça fait partie du jeu?
Ça fait partie du jeu. C'est pas du tout une déception parce que je me doutais que... Enfin, moi, je visais les minima olympiques lors de mon dernier marathon, mais je savais que même si je visais les minima olympiques, ce serait pas suffisant. Donc finalement, je suis pas déçue que je fasse de 26,50 ou de 28,43 comme j'ai pu faire. Finalement, ma place reste plus ou moins la même. Donc, je suis pas du tout déçue. Je suis très contente pour les Françaises qui ont excellé sur la distance.
Et elles ont des chances. Vous pensez de faire quelque chose pendant les Jeux, vos copines?
J'espère pour elles qu'elles feront la meilleure place possible. Après, c'est vrai que les meilleures au niveau mondial, elles sont plus autour de un peu moins de 2h20. Et à l'heure actuelle, la meilleure française est à 2h24. Ouais. Donc j'espère qu'elles vont encore descendre les chronos, mais c'est vrai qu'il y a encore une marge entre...
Vous tournez autour de presque 2h30.
C'est ça.
C'était ce que vous avez fait à Berlin d'ailleurs récemment, 2h29.
J'avais fait 2h28-43 à Séville,
Presque 2h29, mais ces secondes-là, elles sont très importantes. Vous avez raison quand on parle de chronos. Vous avez dit que votre distance favorite, c'était le marathon. Le marathon, c'est à la fois une course, mais dans l'esprit de tout le monde, c'est aussi une aventure, le marathon. Le marathon de Berlin, on l'a dit, le marathon de Paris, évidemment, le marathon de New York. Vous en avez fait combien des marathons et quel est votre meilleur souvenir?
J'ai fait 16 marathons.
Et vous venez d'avoir que 33 ans, je précise.
Ouais, c'est vrai, mais c'est une grande passion et je pense que quand j'ai commencé à goûter le marathon, aujourd'hui, je suis pas prête d'arrêter. Donc je sais pas combien je vais en faire encore, mais beaucoup, je pense.
Ouais. Et sur les 16, alors, le meilleur?
Mon plus beau souvenir, ça reste celui des championnats de France en 2016, forcément.
Ouais. Alors, on en reparlera de celui-là, parce que vous étiez en pleine maladie, vous veniez de reprendre cette course et vous avez époustouflé vos toubibs à ce moment-là. Mais du coup, donc, celui de 2016...
Ouais, celui de 2016, c'était mon plus beau souvenir parce que il y avait aussi la dimension familiale. J'étais en famille, il y avait ma grand-mère, il y avait ma famille, mon père, mes proches. Et c'est un parcours où j'étais en France, pas très loin de ma famille aussi. C'était à Tours. C'était un vrai bon souvenir, surtout que un an auparavant, j'avais eu mes derniers traitements de chimio. Donc c'était très fort.
Qu'est-ce que ça apprend de soi-même, le marathon? Vous nous avez dit tout à l'heure, c'est pas une compétition contre les autres, c'est contre soi-même. Qu'est-ce que vous avez appris de vous au fur et à mesure?
Je pense que c'est
de ces épreuves.
De travailler son mental, de travailler son endurance. Moi, je pense que ça m'apprend beaucoup sur moi aussi à chaque marathon, de savoir aussi que je suis un peu fofolle au départ et que du coup, je pars toujours trop vite et que je le paye sur la fin de course. Ça reste inchangé, malheureusement. Je suis toujours un peu trop dans l'euphorie parce que j'aime tellement ça que je pense que quand je pars, j'oublie un petit peu les chronos, même si on m'avait dit tu dois partir à telle allure ou telle allure. J'ai toujours tendance à m'enflammer un peu.
Mais au moment où vous êtes face les fameux murs ou les plats ou les gros coups de barre qu'on se prend, ce moment-là, vous allez chercher au plus profond de vous-même la motivation pour tenir.
C'est ça, on pense à ses proches, on pense à ce qui nous fait du bien, on pense à l'arrivée. Justement, on se dit, j'essaie de garder ce focus d'arriver, qu'on fasse un bon ou un mauvais chrono, je pense que c'est vraiment l'essentiel.
Bon, on va parler de ce marathon de 2016 et de ce qui vous est arrivé, chère Anaïs, que vous racontez aussi dans ce livre. Tout ce que je voulais, c'était courir, avec une préface signée de la géniale Cécile Coulon, évidemment. On marque une toute petite pause, c'est Norah Jones, et alors ils sont taquins à la programmation musicale de France Inter, puisque c'est Running.
But the air
Et c'était Norah Jones avec Running dans l'esprit sport.
L'esprit sport. Nathalie Yanetta sur France Inter.
Parmi les chances de médailles françaises, puisque nous sommes à J-143 avant le début des Jeux paralympiques, il y a la para-équitation. Et il y a lui, Vladimir Vinchon, spécialiste du dressage, qui sera en selle avec Pégase Mayenne, son fidèle cheval, âgé de 11 ans et de race allemande. Et Guillaume Batin est allé les rencontrer tous les deux à Chanqueuil, dans l'Essonne.
Pégase Mayenne, robe noire, attend sagement dans son box l'arrivée de son cavalier.
Salut mon lapin. Coucou mon lapin.
Un petit bisou.
Un petit bisou.
Hein?
Qu'est-ce que vous regardez quand vous arrivez?
Je regarde son œil un petit peu. Quel regard il a?
Rien qu'un regard parfois est suffisant pour dire ce qui va ou ce qui va pas. Là, il a l'œil coquin, là, ce matin.
Le cheval, c'est la grande passion de Vladimir Vinchon. D'abord jockey, il est victime d'un accident de voiture dans lequel il perd une jambe, mais l'aventure continue en paradressage.
J'arrive à cloche-pied, puisqu'aujourd'hui, je pratique la discipline du dressage. La selle est spécialement adaptée là, pour la discipline du dressage, alors qu'effectivement, contrairement au saut d'obstacle, je n'avais pas de selle adaptée, puisque je montais avec ma prothèse. Donc après, c'était simplement une adaptation au niveau de l'étrier.
Super, bravo. Bien, mon lapin, bien. Allez, marche. Voilà, super. Bien, mon lapin. Voilà. Maintenant, on va passer aux allures supérieures, au trot et au galop. Hop.
Est-ce que vous pensez que Pégase Mayenne sent qu'il vous manque une jambe à droite et qu'il le comprend, qu'il s'adapte à ça?
C'est un petit peu toute la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui avec les chevaux, c'est que ce sont des éponges émotionnelles et physiques extraordinaires. Bah clairement, c'est-à-dire qu'un cheval aujourd'hui va pousser un peu plus à droite qu'à gauche pour porter un petit peu plus le manque, ou inversement, ne va pas rentrer son postérieur en dessous de sa masse pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas la jambe, même si on a une adaptation qui est une grande cravache qui remplace ma jambe à cheval, mais qui n'a pas quand même la même action, on va dire, aussi régulière que la jambe gauche. Donc voilà, il y a cette petite compensation, cette petite dissymétrie que lui vient compenser et que nous, on vient rectifier avec un cavalier valide.
Pégase Mayenne fera les Jeux de Paris avec Vladimir Vinchon, mais il sera trop vieux pour Los Angeles 2028. Sa remplaçante, Bella Cioccolina Magician, s'y prépare. Elle vit à quelques sabots de Pégase Mayenne, dans le box, juste en face.
Toujours avec Anaïs Kemener. Ma chère Anaïs, je vous présente Thierry Bouillet qui nous a rejoint. Bonjour, docteur Bouillet.
Bonjour Nathalie, bonjour Anaïs, je suis envie de faire votre connaissance.
Vous êtes cancérologue, président de la Fédération Nationale Sport et Cancer, d'où l'invitation, hein, forcément il y a un lien, la Camille. Alors ça fait 20 ans que vous vous êtes lancé là-dedans, c'est-à-dire que vous vous êtes dit on va accompagner des malades du cancer en leur faisant faire du sport. Donc vous êtes passé pour un dingo.
Parce qu'en fait, c'était pas du tout dans la norme de l'époque. La norme de l'époque, c'est que vous avez une maladie cancéreuse, reposez-vous, surtout pas de sport.
On est au début des années 2000, docteur, hein, c'est ça à peu près.
Fin des années 90, l'époque, c'est le repos, pour pallier aux effets secondaires de la maladie et du traitement.
Ouais.
Ce qui, en fait, va s'avérer une grosse erreur. Mais au début, on n'avait pas de base de données.
Et votre intuition, à vous, du coup, elle vient d'où, alors, puisqu'il n'y avait pas de base de données?
C'est un coup de chance, en fait, dans notre génération. On est passé du survivre au vivre. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'était au début purement de faire survivre le patient. Et puis l'idée, ça a été de le réinsérer dans la vie sociale, la vie professionnelle, la vie humaine. Et on s'est aperçu que le gros problème pour passer du survivre au vivre, c'est que les gens ne retrouvaient pas leur corps. Ils ne se faisaient plus confiance.
Ouais.
Donc il a fallu ramener une confiance dans le corps, essayer de réunir corps et esprit dans une véritable confiance. Et la seule façon... Ça a été le sport. On a tenté, on a essayé, et ça a marché, c'est un coup de chance.
Ça a marché. Anaïs, vous, le cancer, vous l'avez affronté. Vous aviez 24 ans, je voudrais vous faire écouter quelque chose. à vous et au docteur pour qu'on en parle après.
Alors, la maladie, c'était un moment très délicat. C'était une annonce qui nous tombe dessus. Je l'ai trouvée dans le canapé, blanche, complètement fatiguée. Et quand je l'ai vue comme ça, j'ai dit, Anaïs, on va bouger tous les deux, on va marcher, on va trottiner, on va courir, on va faire du vélo, mais on restera pas en place. Je veux pas que tu restes dans ton canapé. Et ça a été le déclic. On a décidé tous les jours on irait faire quelque chose, peu importe ce qu'il y a eu, chimio ou autre chose, on irait faire quelque chose. Moi, mon seul objectif, c'est qu'elle sorte, elle prenne l'air et qu'elle garde une petite condition pour ne serait-ce que pour se faire du bien, quoi, tout simplement.
C'est votre père, Anaïs, qui raconte cette histoire dans un documentaire sur YouTube qui vous est consacré. J'ai vu Thierry Bouillet, le docteur, sourire en écoutant les propos de votre père, parce qu'il a la bonne intuition, ce père.
Votre papa, il vous a donné deux fois la vie. Et il est clair que le fait de vous faire bouger et éviter que vous restiez dans un fauteuil, dans un lit, vous a permis de conserver vos masses musculaires, vous a permis de changer votre façon de vivre, de limiter l'apport de graisse, à lutter contre l'inflammation, qui est un gros problème de facteur de croissance des maladies cancéreuses. Il vous a donné une meilleure tolérance au traitement et il vous a permis de guérir plus facilement, dans une meilleure qualité de vie et avec un taux de guérison beaucoup plus important.
C'est ça, Anaïs, c'est exactement ça qui s'est passé.
Oui, exactement.
Comment est-ce que vous avez compris très vite aussi que le sport, vous nous avez raconté, qui vous accompagnait depuis l'enfance, allait là aussi non seulement vous accompagner, mais vous sauver?
Au départ, j'étais un peu dans le déni de la maladie. Hein, mais le sport, c'était ma vie à 200% déjà avant de tomber malade. Et j'ai voulu continuer à courir parce que je voulais juste garder ma vie d'avant, pendant que j'étais malade.
Je ne suis pas malade, donc je peux continuer à vivre comme avant.
C'est ça.
Et à un moment donné, comme disait Lacan, la réalité c'est quand on se cogne, donc ça n'a plus marché.
J'étais persuadée en fait que j'allais m'en sortir et je me disais que tant que je pouvais continuer à courir, j'étais vivante. Et ça m'a vraiment aidée au quotidien. Et alors mon père, effectivement, dans les moments où ça allait un petit peu moins bien, était toujours là pour me sortir des mauvais passes.
Anaïs, c'est votre père, hein, on a entendu, qui vous a emmené dehors, on va dire ça comme ça. Et vos médecins là-dedans?
Mes médecins, ils n'ont jamais vraiment été contre la pratique du sport. C'est-à-dire que quand j'en ai parlé à mon docteur, il était OK. Il m'a dit OK, tu peux continuer à courir. La différence, c'est qu'il ne voulait pas spécialement que je fasse de compétition parce que pour le coup, c'était un peu plus... Par rapport au traitement, j'avais des cardiotoxiques dans la chimio et du coup, il avait quand même assez peur de l'infarctus ou des risques liés au traitement de chimio parce qu'il savait que je voulais... Au-delà d'adapter mon sport, je voulais me dépasser.
Ça, docteur, c'est un sujet quand même, on va pas se mentir. Le sport, comme dans tous les domaines de la société, c'est toujours quelque chose d'à part. Donc, il n'y a pas de module de formation dans la formation très longue des médecins et des oncologues qui concerne ce nouveau traitement que peut être le sport.
C'est très difficile de faire passer le message aux soignants. On a maintenant, dans les formations des jeunes médecins, quelques heures de cours.
Mais quelques heures sur 12-15 ans d'études, docteur. C'est un sujet quand même.
Faire passer le message est difficile au niveau des facultés de médecine et au niveau des décideurs.
2017, c'est le sport sur ordonnance, avec quand même une limite aussi, parce qu'elle existe, c'est le sport sur ordonnance, mais pas remboursé. Donc du coup, ça exclut aussi de facto toute une catégorie de gens qui n'a pas les moyens de se payer des coachs, etc. Donc est-ce que là aussi, dans l'hôpital, le monde du sport et le monde de la médecine peuvent se rejoindre pour offrir, et je dis offrir au sens gratuité du terme, ce genre de protocole, on va les appeler comme ça, qui aide aussi les malades ou pas?
Alors c'est un vrai protocole thérapeutique, puisqu'en fait c'est 40% de rechute en moins. Donc c'est vraiment un soin avec un impact financier favorable.
Quels que soient les cancers, docteur.
Quels que soient les cancers, c'est ça ce qui est impressionnant. Y compris les cancers du poumon non tabagoïndus, on a un bénéfice. Le sein, le côlon, la prostate, les cols de l'utérus, les cordes de l'utérus, on sait que ça marche et qu'il y a un bénéfice. Il y a eu une loi, mais c'est vrai que le remboursement posait question, car la principale question des politiques, c'était quels sont les critères de qualité qu'on va pouvoir mettre en face de l'activité physique et sportive. C'est-à-dire qu'y a-t-il un danger à cette activité physique et sportive si elle est faite par n'importe qui?
Ça veut dire que l'état des recherches n'est pas suffisamment abouti pour que les politiques publiques se disent « ça marche, donc on rembourse ».
Alors les politiques publiques maintenant l'acceptent, puisqu'il y a un article 51 de la Sécurité sociale dont la Camille est un des bénéficiaires, qui permet de prendre en charge des êtres humains avec des cancers du sein, avec une activité physique, et on verra dans 3-4 ans quel est le bénéfice. Le bénéfice, il est évident, un cours de sport coûte moins de 15 euros Les patients, de toute façon, le payent pas, ça nous revient à ça, et ça rapporte 40% de rechute en moins. Chaque rechute, c'est 10 000 euros par mois.
Claude Askolovitch nous a rejoint. Salut Claude.
Salut. J'étais juste pour comprendre, quelqu'un qui est malade, qui a un cancer, qui veut faire du sport, c'est pas tout seul. Ce que vous disiez tout à l'heure, Anaïs, c'est vous aviez une charge toxique. On ne le fait pas sans son toubib, on ne le fait pas sans un coach formé. Où est-ce qu'on peut y aller tout seul si on se sent bien?
Idéalement, il faut d'abord aller dans un club ou dans une structure labellisée l'onco-sportive, avec une évaluation initiale de ce que peuvent faire les gens. Vous prenez pas une femme de 40 ans, de 25 ans comme Anaïs, comme un vieux monsieur de 70 ans avec un cancer de prostate. J'en ai 70 ans, je peux le dire, enfin pratiquement, j'y arrive. Donc, un vieux
vous
monsieur...
ne faites pas, docteur.
Non, enfin, j'y suis pas encore, mais ça va venir. Et vous prenez pas en charge...
Ça va venir pour nous tous, enfin on espère.
Vous prenez pas en charge ce genre de patient. Donc vous devez évaluer ce qu'il peut faire, ce qu'il a envie de faire, et suivre ses efforts, voire suivre les toxicités des traitements, et les complications de la maladie et des traitements.
D'accord, donc on ne dit pas, les gens qui nous écoutent, qui peuvent avoir un cancer, qui peuvent être en traitement, c'est pas après la chimio, tu rentres chez toi, tu chausses les baskets, tu vas courir tout seul. Non. Ce n'est pas ça l'idée.
Voilà. Il y a des structures encadrantes, que sont la CAMI, qui est probablement une des grosses structures nationales, il y a le PPGV, qui est remarquable, il y a Ciel Bleu, il y a d'autres structures. Donc il y a quasiment une couverture sur l'ensemble du territoire français.
Anaïs, quand on fait des chimios, on est avec d'autres malades du cancer, il y en a d'autres que vous avez pu, entraîner, à qui vous avez pu raconter votre histoire, ou vous avez senti que vous étiez quand même un peu toute seule là-dedans?
Pendant mes traitements, non, j'étais quand même assez seule. Enfin, même lorsque je faisais mes chimiothérapies, j'avais personne de mon âge, j'avais personne à qui... généralement, on nous mettait dans une chambre un petit peu à l'écart avec mon père, et du coup, on regardait des films. J'ai jamais été vraiment avec les autres malades.
Et sur la pratique sportive, vous avez échangé avec d'autres malades?
Alors, pas tant sur la pratique sportive, mais un peu, ça s'est fait plutôt par la suite, mais surtout dans mon domaine médical, en tant qu'aide-soignante.
Alors voilà, parce que vous êtes aussi aide-soignante, hein, dans votre vie, vous travaillez à l'hôpital et vous travaillez la nuit, vous.
C'est ça.
Donc vous cumulez les défis.
Mais pour le coup, là, ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de parler avec d'autres patientes qui sont devenues des copines et même des amies, et qui ont rejoint aussi une association dans laquelle je suis. Et on fait des regroupements où on marche, où on fait du sport, où on fait du vélo, où on essaie d'aller courir ensemble. Et pour le coup, le côté communautaire, ça aide énormément.
Alors, on va voir dans la dernière partie de l'émission quel sport, pour quelle maladie et comment. Mais d'abord, Claude, vous nous parlez non pas d'un cancer, mais d'une chute.
La chute d'un champion cycliste, c'était 2 ans avant ma naissance, il se nommait Roger Rivière. Il était de Saint-Étienne et il porte pour moi éternellement le vertige des vies perdues. Car Roger Rivière, grand pistard devenu routier, recordman de l'heure, qui chuta dans la descente du col du Perjuret, dans le Tour 1960 qu'il voulait arracher à l'Italien Nencini, aurait dû devenir l'autre Jacques Anquetil. Les deux hommes se craignaient, se détestaient, se ressemblaient, jusque dans leur manière d'assumer la face noire du métier. Quand on ramassa Rivière, les vertèbres brisées, sa carrière finie à 24 ans, on trouva dans son maillot un cachet de palfium, un antidouleur qui protégeait son effort, mais qui avait amoindri ses réflexes et qui sans doute l'avait perdu. Le palfium qui resta sa drogue ensuite et qui le tua à 40 ans en 1976. Roger Rivière, le Stéphanois, mourut un 1er avril au lendemain de la victoire des Verts, 1-0 contre le PSV Eindhoven, en demi-finale de cette Coupe d'Europe qu'il perdrait à Glasgow. Il est des drames qui disent l'exactitude de leur époque.
Et celle de Rivière est revenu vous hanter.
Car, et je touche du bois, puisque nous sommes en plein Paris-Roubaix, le cyclisme est entré dans une nouvelle fatalité, et ce printemps de chute qui ont meurtri Van Aert, Roglic, Evenepoel, Vingegaard, nul ne peut plus l'ignorer. Mais en réalité, nous le savions déjà en juin dernier, quand Gino Meder est mort au Tour de Suisse, sorti de la route à 100 km/h. Et nous en aurons d'autres, des morts ou des vies détruites, si nous ne sauvons pas le cyclisme de sa logique aussi destructrice que celle qui emporta Rivière ou foudroya Tom Simpson quelques années plus tard sur le Mont Ventoux. Dans les années 60, le doping, comme on disait, c'était l'excès de jeunes gens dévorés de vie. Nous eûmes ensuite les années EPO, le sang trafiqué, les cœurs de champions qui lâchaient en entraînement, l'irréalité du règne de Lance Armstrong. Nous vivons désormais une autre irréalité. Elle est un cauchemar de technologie, de vélos de carbone trop parfaits, trop puissants, des développements jamais vus, des freins à disque qui sont comme des suicides collectifs, tant leur efficacité pousse au risque grisant. Elle est un cauchemar de vitesse jamais vue, de peloton en train d'enfer, de cyclistes guidés à l'oreillette, hypnotisés par les capteurs de puissance, fixés à leur machine, coupés des autres, coupés d'eux-mêmes, et soudain, une fausse route, un échec, une distraction, le réel cogne, vous avez cité Lacan tout à l'heure. Des sages, Marc Madiot, Romain Bardet, nous alertent sur ce que devient leur sport. Nous avons failli perdre Alaphilippe. Vingegaard n'est pas passé loin. Il faudrait alors ralentir et renverser la marche du temps. Mais comment? Comment peut-on protéger des champions de leur propre force?
Mais quand même, les cyclistes sont mieux protégés qu'à l'époque de Rivière.
Oui, car évidemment, le casque a remplacé les vieilles casquettes. Et, mais il faudrait, je l'ai lui aussi imaginé maintenant, des maillots airbag. À quoi allons-nous ressembler? Et puis, cette histoire de casque, c'est aussi une tragédie. Le casque est devenu obligatoire après la chute mortelle dans Paris-Nice du Kazakh Andrei Kivilev il y a 21 ans. Sauf qu'on a oublié que Kivilev était tombé parce qu'il était en train de régler son oreillette, ce qui l'avait distrait de sa course. Il est mort autant de l'absence de casque que de cette technologie qui perdure aujourd'hui. J'ai retrouvé dans mes archives un article du journal belge Le Soir, qui en 2003 suivait Cofidis, la formation de Kivilev. La veille de l'accident, un des coureurs avait interpellé son directeur sportif. Il disait « C'est trop, on reçoit tous les mêmes consignes en même temps et quand en plus vous avez l'hélico de la télé, vous n'entendez plus rien, c'est comme ça qu'il y a des chutes, il faut supprimer cette oreillette et imposer le port du casque. » Ce coureur, prophète, s'appelait Philippe Gaumont. Il avait du coffre et des excès, il savait tout du vélo, mais aussi se dopait, il l'avoua, il en fit un livre. En 2001, il s'était fracassé les os dans Paris-Roubaix, dans cette tranchée d'Arenberg que l'on a édulcorée cette année avec une chicane. Et comme Roger Rivière, il est mort à 40 ans.
L'Esprit Sport sur France Inter.
Toujours avec Anaïs Kemener, la marathonienne, auteur de ce livre « Tout ce que je voulais, c'était courir » chez Flammarion, et Thierry Bouillet, le professeur, le docteur, oncologue, qui a mêlé depuis plus de 20 ans maintenant, quasiment 25 ans, le sport pour sortir de la maladie, réparer. Le sport, on savait que c'était avant la maladie, ça évite un peu la maladie. Est-ce que c'est aussi pendant le traitement et après la maladie, docteur?
Alors le sport, c'est toute une vie. C'est avant, en effet, puisqu'en fait, c'est 25% de l'ensemble des maladies cancéreuses en moins.
Il paraît qu'on peut carrément éviter certaines maladies, le diabète, etc., grâce au sport, si on fait une activité, évidemment, extrêmement récurrente et poussée.
Je n'ai pas de données sur l'évitement complet. Ce qu'on a, c'est des réductions de risque, en effet, des maladies cardiovasculaires, du diabète, des maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, le Parkinson, tout ce qu'on peut connaître, et 25% de cancer en moins. Je ne pense pas qu'on pourra éviter tout. C'est pas...
Bah, la preuve, Anaïs, elle a fait du sport toute sa vie et elle a été frappée d'une totale injustice parce qu'il n'y avait aucun antécédent dans votre famille, en plus, pour ce cancer du sein à 24 ans.
Tout à fait. Et heureusement, elle a continué le sport. Parce que par contre, un être humain qui est très sportif, qui fait une maladie cancéreuse, hélas, qui n'a pas bénéficié des 25% de réduction, et qui arrête le sport, a une surexposition à un risque de rechute de sa maladie cancéreuse. Donc ce qu'a fait le papa d'Anaïs est formidable, parce qu'elle l'a poussé, réduisant le risque de rechute et lui évitant l'augmentation du risque si elle avait arrêté. Et si vous êtes pendant, bah, il faut continuer, parce que c'est le seul traitement actuellement validé de la fatigue, et Anaïs a parlé de fatigue, ouais. C'est une diminution du risque de rechute, c'est une meilleure tolérance du traitement, et dans l'après-traitement, c'est une augmentation des risques de guérison, réduction évidemment des deuxièmes cancers et d'autres maladies, on l'a cité, le cœur, le diabète et tout. Donc oui, tout le temps.
Comment on choisit, comment vous choisissez la proposition de sport? Alors vous l'avez dit, il faut que les patients aient envie, un sport co, un sport individuel, un sport d'endurance, etc. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a quand même un sport, un cancer? En gros, voilà, je schématise.
Alors il n'y a pas un sport, un cancer, il y a des apports de chaque activité. Le docteur Alain Calma avait fait dans le cadre du comité olympique du sport français, ce que moi j'appelle le Calma de la maladie, c'est-à-dire que chaque fédération...
Le docteur
fédération...
Alain Calma, médaillé olympique quand
et
même.
Et ministre.
Et ministre.
Ministre et champion du monde.
Vous avez vu, pour le toubib, ce qui compte d'abord, c'est d'être docteur. Fais des études, mon frère.
Ah, je ne sais pas si Alain Calma aurait dit docteur d'abord ou ministre d'abord.
Monsieur Alain Calma, il a plein de vies, alors on va citer...
Il aurait dit médaillé, non, il aurait dit patineur.
Peut-être. Patineur, on va juste citer sa vie de médecin du comité olympique du sport français, où il a vraiment fait un Calma du sport. Donc chaque fédération délégataire, et on est cette année dans les Jeux Olympiques, a fait ce qu'il pouvait faire pour un cardiaque, pour un diabétique. Donc il y a vraiment une proposition complète pour toutes les maladies, et chaque être humain, chaque malade, va choisir ce qu'il a envie de faire.
Ouais.
Et le boulot du médecin, c'est de l'inciter à faire, éventuellement de vérifier, comme l'a dit Anaïs, qu'il n'y a pas de contre-indication, mais s'il n'y en a pas, le pousser, pousser. Pousser.
Anaïs, je pense que déjà ça dépend des gens, c'est vraiment du cas par cas. Si quelqu'un va aimer le vélo, la course à pied, le tennis, je pense que directement en fait il va se rediriger vers un sport qu'il aime déjà à la base. Donc après forcément on peut découvrir d'autres sports aussi quand on rentre dans des associations, mais je pense qu'il n'y a pas trop de secrets en règle générale.
On parlait des Jeux Olympiques, docteur, est-ce que ça peut aider la cause? Les Jeux, c'est-à-dire mettre en lumière, la preuve c'est qu'on fait une heure d'émission sur France Inter là-dessus, sur le sport et l'oncologie, y compris pour d'autres pathologies. Est-ce que ça peut, ça doit être un héritage olympique, ça?
Ah, je crois que ça peut être un magnifique héritage olympique en termes de santé publique. On a chaque année 400 000 êtres humains porteurs de maladies cancéreuses diagnostiquées en France. Il est clair que si cet héritage olympique a amené à une pratique sportive qui commence tôt, à le sport entre 12 et 22 ans, c'est le principal impact sur la maladie tumorale, impact qui se persiste, même si vous avez 50, 60 ans, c'est jamais trop tard. Mais si vous imaginiez que les Jeux Olympiques de Paris permettaient de diminuer de 25% le nombre de patients cancéreux en France, c'est un sixième anneau.
Ce serait magique, ouais. Nous, on a un sportif à France Inter, qui est reporter, mais qui est aussi judoka et qui veut se qualifier pour Paris 2024 pour son pays d'origine. Le Bénin, on suit sa préparation olympique depuis le début de la saison. Il s'appelle Valentin Winato. Et là, c'est pas sur un tatami qu'on va le retrouver. C'est dans les rues de Paris parce que figurez-vous que, évidemment, il a besoin d'argent. Et il va tenter de financer la suite de sa saison, la prépa de Valentin, épisode 27.
Allez, première maison. C'est parti.
Oh, il y a encore des sonnettes comme ça.
Wow.
C'est un échec.
Voilà.
Ça commence très très bien.
Je suis de retour dans ma ville d'origine, en Seine-et-Marne, pour faire du porte-à-porte. Et demander aux gens s'ils ont envie de donner dans cette fameuse cagnotte Litchi que j'ai lancée pour financer des compétitions. Je fais sur deux jours. Nous sommes le jour 1. Celui qu'on retient, comme dirait Louane. C'est le jour 1. Bref, je vous tiens au courant. Alors là, je suis avec Christelle.
Nils.
C'est quoi ton prénom, ma puce?
Apolline.
Et c'est le premier don de la journée. Merci beaucoup.
On espère que c'est pas le dernier. Hein.
Trop gentil, merci beaucoup. C'est un anniversaire, là, aujourd'hui, non?
Un mariage.
Ouais, on va être très bien habillés. Bonjour, madame. Je vous embête une minute. Je suis de saison, je prépare les Jeux Olympiques de judo. Et j'ai ouvert une cagnotte. C'est un échec. Je pense que les gens me prennent pour un témoin de Jéhovah, de prime abord. Là, j'ai dû faire... une cinquantaine de maisons. La moitié ne répond pas. Bon, ils sont pas là ou ils ont pas envie. Sur la moitié qui répond, il y en a une bonne moitié qui peut pas blairer, qui déteste le sport ou les JO, bah, c'est le bazar et tout. Là, je vais chercher des amis qui vont m'aider. Et je vous fais un point à la fin.
Ça va ou quoi?
Ouais, toi. Dis-moi que t'as réussi à avoir de l'argent quand même.
Ouais.
Combien?
Tu veux que je te montre?
Ouais.
Est-ce que t'es prête? C'est les 10 premiers
non,
euros.
T'arrêtes de te dire.
C'est bien 10 bon. Euros.
Petite pause dans le porte-à-porte. Je vais faire une surprise au fils d'un de mes meilleurs potes. Et il a une rencontre amicale. C'est une compétition pour les petits aujourd'hui.
Alors on a Valentin avec nous, celui qui va faire les Jeux Olympiques. Là, vous avez qu'à vous la refiler la photo. Hein.
Bon courage tout le monde.
Est-ce que je peux faire une photo avec
toi? Bah bien sûr. Tu veux qu'on fasse la photo avec qui?
Moi, ma soeur, et je vais appeler.
Ouais, vas-y, viens. Pas de soucis. Allez, encore Vincent, encore. Ça s'est passé comment la compétition?
J'ai terminé 3e.
T'es content?
Moyen. Je suis content que tu sois venu.
Un gros câlin.
Nambi, tu peux annoncer le résultat du jour 2?
Alors, tenez-vous bien, de 15 euros. TTC.
Donc, toute la journée de porte-à-porte.
15 euros, c'est ça, vous avez bien entendu.
Et je suis obligé de terminer en disant évidemment merci à toutes les personnes qui ont donné. Merci du fond du cœur, je trouve ça fou d'avoir cette bienveillance, de mettre la main au porte-monnaie. Tiens 5 euros, tiens 10 euros. Et je vous laisse avec mon couple coup de cœur de ce week-end.
Bernard.
Bernard et
Monique.
Bernard et Monique.
Je sais les sacrifices qu'il faut faire pour eux. Arriver à ce niveau-là, quoi.
C'est gentil de croiser les doigts.
Ah, mais alors, tu es sûr que devant l'écran de télé, tu vas avoir deux supporters, mais à deux ou pas?
Sur Instagram, vous pouvez suivre son actualité, comme ça, vous pouvez voir quand il combat.
Vous avez Instagram?
Bah oui.
Regardez, en bas, là, j'ai mis mon Instagram.
D'accord.
Vous allez me suivre, hein?
Oui.
Ok, ça marche. Mardi 30 juillet, si vous voulez regarder.
Ah bah, un peu.
Et la cérémonie d'ouverture avant. Je vous ferai un coucou.
Tu déconnes pas sur la péniche, hein? Tu
Non, je vais pas tomber dans la scène, promis.
Hein?
Dernière partie de l'Esprit Sport avec Anaïs Kemener et Thierry Bouillet. Anaïs Kemener, on n'a dit pas les Jeux de Paris 2024, sauf le marathon pour tous. Et les Jeux de 28, alors?
Bah, j'y pense. C'est vrai, ouais. Là, j'ai eu quelques années un petit peu plus tranquilles, on va dire, jusqu'à 2026. Et puis ensuite, il y aura de nouvelles sélections pour les Jeux Olympiques, qui seront en 2028 à Los Angeles. Donc, je retenterai ma chance à ce moment-là.
Objectif Los Angeles pour Anaïs Kemener. Quel objectif pour vous, docteur Bouillet?
Obtenir un remboursement de l'activité physique pour l'application complète de la loi sur le sport sur ordonnance et sa finalisation avec une possibilité de prise en charge sont des critères précis pour éviter que la prise en charge ne soit pas de qualité, sécuritaire et bonheur pour les patients.
On va inscrire ça à l'agenda 2024 alors. Claude, objectif?
Le mien, là?
Ouais.
sortir de ce limbago et refaire le Mont Ventoux.
Ok, pas mal. Pas mal. Merci à tous les deux, vraiment, infiniment, d'avoir été nos invités du jour. Anaïs Kemener, je le rappelle, votre livre sorti chez Flammarion, Tout ce que je voulais, c'était courir. Et vous, Thierry Bouillet, je le rappelle, vous êtes oncologue spécialiste du cancer, mais aussi de cette fédération pour le sport et le cancer. Et vous êtes toujours à l'hôpital Avicienne? À
tout
Bobigny,
à fait.
Avec
tout
vos
à
patients.
Fait, oui.
Ils
avec
ont
mes
de la chance,
que
vos
j'adore.
Patients. Merci à vous, merci à mon équipe du dimanche, de la direction des sports, capitaine Alexandre Gilardi, Guillaume Giraud, cette semaine à la réalisation, à la technique, c'était Sofiane Active, et à la programmation musicale, Jean-Baptiste Dibert. Merci Claude.
Merci.
À dimanche.
Merci à vous deux.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.